Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler d'Among Trees, de Fighting Tight Spaces, de West of the Dead, de Beyond Blue et de Project Warlock, à peu près dans cet ordre, pas tout à fait, mais à peu près. Programme beaucoup trop gros, mais on avait fait qu'un jeu la semaine dernière, mais quel jeu. Et donc il fallait qu'on se rattrape un peu, et pour en causer avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Marius Chapuis. Salut Marius.
Salut Erwan.
Et Patrick Helio, salut Patrick.
Salut Erwan, salut à vous deux.
J'ai dit le com des com et tout ça, mais la chronique de Jérémy, oui, bon, enfin bon bref, le programme vous connaissez. On commence avec toi, parce qu'il y a pas mal de choses à dire avant d'arriver sur les jeux eux-mêmes. Et on va commencer avec toi avec quelques petites nouvelles du côté d'Epic.
Oui, bah oui, Epic, alors on sait qu'il pète un peu tous les records de fréquentation depuis un moment. Et là, il y a un chiffre qui vient de passer cette semaine, qui est quand même un peu symbolique, hein. C'est le cap des 60 millions d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme de l'Epic Game Store. On rappelle, hein, qui a été lancé fin 2018. Plus de 60 millions d'utilisateurs enregistrés. Ça a été évidemment exponentiel depuis des mois. Il y a eu l'effet non négligeable des fameux jeux offerts toutes les semaines avec des titres quand même assez importants comme GTA V qui a fait beaucoup parler, qui était offert il y a quelques semaines, Civilization, Borderlands, voilà des grands noms qui ont été offerts comme ça au cours des dernières semaines. Voilà, plus de 60 millions d'utilisateurs. C'est un petit pays, hein, quand on y pense, hein. C'est un pays, c'est pas rien du tout.
La vraie question, c'est combien d'utilisateurs il y a dans Steam?
Hein? Alors ça, c'est une très bonne question. Et de multi-équipés, de gens qui ont tous les launchers, hein, qui ont du EA, qui ont du Ubi, qui ont du Steam, il y a ça aussi. En fait, la vraie question, c'est combien de ces utilisateurs qui ont donc un compte pour débloquer les jeux gratuits consomment après des jeux et restent vraiment fidèles à cette plateforme en termes de consommation de jeux. Ça, c'est une autre question. Je crois qu'on a vu des chiffres qui étaient plutôt positifs sur des titres qui étaient en exclusivité, qui étaient uniquement lancés sur le store de Epic. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que je crois qu'il y a eu un pic enregistré de 13 millions de joueurs connectés à un moment donné. Et puis évidemment, la locomotive Fortnite, hein, ça reste vraiment l'ambassadeur de la plateforme Epic, qui a fait une pointe, d'après ce que j'ai vu passer, à plus de 12 millions la semaine dernière, parce qu'il y avait un événement ponctuel au cours de la saison Fortnite. Une plateforme, on en a déjà parlé, qui devient une sorte d'endroit virtuel avec des manifestations qui sont organisées. Là, la prochaine qui a lieu dans les jours qui viennent, c'est la diffusion de films de Christopher Nolan dans l'univers du jeu. Donc, il y a les Batman qui passent sur un écran géant. C'est pas anodin. C'est-à-dire que ça devient, on en a déjà un petit peu parlé ici, ça devient une plateforme sociale, ça devient une plateforme qui transcende en fait le statut de jeu en ligne. Ça devient vraiment un endroit virtuel de où les gens se retrouvent, peuvent consommer, voir des films et en tout cas voilà, il y a cette diffusion des films de Nolan, ça reste quand même, ça reste assez étonnant. Et en tout cas, ça je trouve que ça entérine vraiment le statut très très particulier de ce jeu qui est plus qu'un jeu aujourd'hui, c'est un vrai phénomène de la société, clairement.
Alors, juste pour comparatif, hein, sur les 60 millions, sur Steam, en temps réel,
ouais.
En ce moment, c'est entre 14 et 20 millions de joueurs simultanés, tout le temps. Mm-hmm. C'est le 14 millions, c'est le plus bas, et 20 millions, c'est le plus haut.
D'accord.
Le nombre et alors d'après les données que je vois, le nombre de comptes enregistrés, le nombre de comptes enregistrés, c'est 667 millions de comptes et 86 millions de comptes actifs. Entre 90 et 100 millions de comptes actifs et plus de 600 millions de comptes enregistrés.
C'est colossal.
Ouais.
C'est colossal, mais avec une ancienneté complètement incomparable. Et en tout cas, en tant que challenger, on va dire. Epic a fait quand même très fort, mais c'est vrai que la carte jeu gratuit est clairement un moyen qui fait venir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de joueurs qui se connectent toutes les semaines juste pour cliquer, récupérer leurs jeux et continuer à les entasser, à y jouer. C'est une autre question. Il faudrait voir aussi effectivement la consommation, l'utilisation des jeux. Mais en tout cas, ils ont vraiment réussi à s'accaparer via évidemment la base Fortnite et puis cette politique très agressive de diffusion de jeux gratuits à conquérir très très vite des parts de marché. Clairement, ouais,
c'est surtout, je trouve, ce chiffre dit surtout qu'ils sont contents du succès de leur politique agressive en fait.
Ouais.
Que ça porte très fruit, que claquer de la thune dans des jeux gratuits, ça, pour eux, ça leur rapporte clairement des joueurs.
Ouais.
Et qui pense sur du long terme, parce que tu vois le truc de Nolan, vient après la bande-annonce de Tenet,
et c'est
un truc mondial avec
ouais.
et qui doit être assez compliqué à gérer parce qu'il y a trois films qui sont diffusés.
Ouais,
il y a Batman Begins pour la France, mais il y a Inception et le Prestige ailleurs.
Donc il y a pas les trois Batman.
C'est des gros deals quoi.
Il y a rien Batman, c'est ça
ouais,
d'accord.
Je crois qu'il y a Batman Begins.
En plus, on connaît un petit peu Nolan pour son côté très très conservateur, très pointilleux sur l'image, sur ses formats et tout ça. Donc, que lui accepte ce genre de diffusion, c'est pas anodin, c'est pas rien.
C'est rigolo. Faudrait juste qu'il retravaille un peu leur interface, parce que j'aime pas l'Epic Game. Je trouve qu'il manque beaucoup trop de fonctionnalités par rapport à Steam et je trouve lourd en fait. Je trouve l'interface lente. Et c'est très étonnant parce que justement avec cette politique hyper agressive, on pourrait penser qu'il travaille énormément l'interface utilisateur. Et je trouve que c'est un peu limité et c'est assez surprenant de négliger un peu comme ça l'outil alors que on cherche à être hyper agressif.
Surtout qu'il promettait de mettre le truc à niveau assez vite et de développer plein de fonctionnalités. Et finalement, ça évolue très lentement. Hein.
Mais tu vois, ça rappelle complètement Amazon Prime et Netflix. Enfin, tu vois, c'est il y a le côté
remplissage.
Epic Game Store, c'est un peu l'Amazon Prime par rapport à Netflix. Mais bon, bref.
C'est vrai.
Bon après, Steam, ça a pris du temps aussi hein, pour s'affiner.
Oui,
ça a pris beaucoup de temps aussi. Il y a eu
quand tu veux faire jeu égal, tu fais jeu égal à tous les niveaux.
Il faut aller vite, oui, effectivement. Ouais. Mais bon, ils ont les moyens, ils vont prendre le temps, je pense. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a tous des catalogues qui grandissent. Et oui, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident.
On parlait la semaine dernière des jeux à très très gros budget, des jeux avec beaucoup d'ambition, et on a eu un peu une réaction sur ce sujet de la part d'un certain Sean Layden.
Alors c'est pas n'importe qui Sean Layden, on rappelle, hein, il est parti de Sony il y a quelques mois maintenant, mais c'est pas n'importe qui, il a été... je crois qu'il a été président de Sony US pendant des années. Il a dirigé les studios Sony PlayStation pendant longtemps. Enfin voilà, c'est une personnalité. Rappelez-vous, on le voyait souvent à l'E3. C'est un petit bonhomme assez avenant, assez rigolard, plutôt sympathique. Et donc lui, il est sorti de Sony. Et là, il a été interviewé. Moi, j'ai vu le papier sur Games Industry par un journaliste qui le faisait intervenir justement sur toute la question du format des jeux. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière sur Last of Us 2 et de ce on avait discuté de ce format de jeu, de ses coûts de développement et de la longueur du jeu, hein, qui dure une trentaine d'heures. On se posait la question comme ça en discutant de la viabilité de tout ça. Et justement, Sean Layden, qui connaît bien les dossiers, on rappelle qu'il était chez Sony au moment où ces jeux-là ont été produits, s'inquiète. Lui s'inquiète, il dit qu'attention, lui, il a vu l'évolution des coûts de développement, des temps de développement. Il rappelle, hein, que rien que Last of Us 1, je crois que c'était 3 ans et demi de développement. Last of Us 2, c'est pas loin de 6 ans, entre 5 et 6 ans, donc ça double quasiment. Les budgets de développement sont maintenant entre 80 et 150 millions de dollars, donc il a vu tout ça exploser. Et lui s'inquiète beaucoup, c'est de la transition vers la prochaine génération de consoles qui là est imminente. On sait que la PS5, la prochaine Xbox arrive là en fin d'année. Et lui, en fait, explique que ça va encore ramener des coûts de production supplémentaires, la 4K, toutes les nouvelles choses qui arrivent, les nouvelles technologies ne seront pas gratuites, vont demander du temps, vont demander de l'énergie et des budgets, et que lui, son problème, c'est ce qu'il explique, c'est que depuis qu'il a commencé dans l'industrie, les jeux sont vendus toujours à $60 environ, ça bouge pas, et que les coûts de production explosent, et que la durée de finition, de création des jeux risque de poser problème avec justement l'explosion des coûts de développement. Et en fait, il pose la question, en fait, face à ce Last of Us 2 qui fait énormément parler à tous les niveaux en ce moment, lui s'interroge, lui il dit en fait justement, hein, revenir peut-être à des jeux d'une quinzaine d'heures, ça très bien, ne serait-ce qu'en termes d'usage et de temps disponible pour les joueurs, et aussi en termes de viabilité, de capacité de production. En dessous de tout ça, on sent très bien qu'il y a aussi évidemment la question du crunch qui est là. On sait très bien que le jeu a été produit dans des conditions très particulières, avec des équipes qui ont été poussées parfois à leur extrême. Et voilà, donc en fait, lui, il explique que là, on va arriver à une équation qui va devenir impossible. On parle évidemment des jeux AAA, on parle pas de la scène indépendante avec des jeux qui ont des coûts plus réduits. Là, il parle vraiment des grosses productions first party en général.
Est-ce que c'est pas un marronnier? Parce que ce débat-là, je l'ai déjà entendu.
Ça revient régulièrement, ouais.
J'ai déjà entendu avant la PS4. Je crois que j'ai déjà entendu avant la PS3 où on disait les coûts explosent, les jeux vont devenir trop coûteux, etc. Et là, il faut pas oublier, on en a parlé avec l'Unreal 5, justement, il y avait eu une intervention de Jérémy sur le sujet, où il y a aussi des outils qui viennent pour gérer la lumière automatiquement, pour poser ses assets directement dans le jeu, pour être plus efficace et pour en fait il y a aussi les outils qui évoluent avec la technologie et qui peuvent permettre de ce qui est intéressant finalement aussi, c'est qu'on va commencer peut-être à avoir des indés qui vont commencer à faire des jeux qui vont titiller les AAA sur leur terrain de l'excellence visuelle. Et c'est là où ça va être aussi intéressant.
Je pense ce qui fait rebondir pas mal là, c'est The Last of Us 2 qui cristallise beaucoup de problématiques actuelles en fait pour ce blockbuster monumental, comme il y a eu Red Dead 2 il y a maintenant quelques années. Il cristallise à un moment charnière. Il pose des inquiétudes sur une durée de vie du jeu, dans le scénario pour finir le jeu. Il y a ces 30 heures qui posent une question sur l'intérêt de jeu, le fait que le gameplay s'étiole, on en a parlé, il y a des problématiques à ce niveau-là. Et puis, évidemment, ce qui est nouveau par rapport aux anciennes générations, et en tout cas qui est plus mise en avant, c'est la question du crunch. Évidemment, c'est la qualité de production sur de telles.
On sera amené à en reparler en 2025 pour la sortie de Cyberpunk. Voilà.
Il a repoussé à nouveau, hein, c'est ça.
De quoi?
Mais on a des images ce soir normalement.
Ah oui, c'est vrai.
On les loupe, hein, à chaque fois, si dans son jour, on loupe un petit peu, mais comme ça, on a un peu de temps pour en reparler la semaine prochaine. On a tout le temps.
Ouais, on a encore une émission. j'allais oublier quand même. Parce que il y a en ce moment, le jeu vidéo. On savait bien que le jeu vidéo n'allait pas y échapper, mais ça tardait un petit peu après le cinéma, après d'autres milieux comme ça. C'est évidemment la vague MeToo qui a l'air de débuter, qui a l'air d'arriver, de grossir en ce moment même, notamment à partir du thread de la narrative designer, alors j'ai perdu son nom, mais tu vas me le rappeler, Marius.
C'est Meghna, pas Megan.
Meghna Giant.
Meghna Giant. Et Son pseudo, c'est Better the Mask.
Ouais, at Better the Mask, qui centralise sur Twitter énormément de témoignages de victimes d'agresseurs sexuels dans le milieu du jeu vidéo. Et ça commence à prendre une dimension assez impressionnante, Marius.
Ouais, le truc a commencé à émerger ce week-end avec des accusations contre Chris Avellone, qui est l'une des grandes figures de côté scénariste de jeux vidéo. Lui, il était en ce moment narrative designer sur Dying Light et il avait collaboré avec sur Vampire Masquerade 2, là, Bloodline, qui arrive aussi. Et il a un CV qui est assez impressionnant, avec du Baldur, du Fallout.
C'est un des grands noms du RPG, quoi.
Ouais, c'est vraiment un des grands noms du genre. Et là, il était accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle, des trucs très détaillés sur le fait qu'il emmenait des femmes, qu'il les faisait boire pour profiter d'elles après, pour il en harcelait d'autres par messagerie, ce genre de choses, quoi. Et les premières accusations ont été corroborées par d'autres témoins. Au point que pour Techland et pour Paradox, c'est devenu intenable et ils ont lâché complètement Chris Avellone en début de semaine, soit en coupant la collaboration dans le cas de Techland puisqu'il était en freelance Excellent. Avec eux, ouais. Voilà. Et Bloodlines, eux, ils ont tenu à dire que il était intervenu qu'en début de jeu et que aucune de ses idées ne serait présente dans le jeu. Et ce truc-là aurait pu rester un peu un cas isolé. Enfin. Ouais. Ouais. Comme ça avait été le cas avec Jérémy Soul et Alec Oloka il y a presque un an, on a eu des accusations, on a eu des témoignages, mais qui n'ont pas dépassé ces personnes-là. Et là, depuis 3 jours, en gros, sur Twitter, il y a une masse de témoignages qui commence à s'accumuler, qui est assez impressionnante. D'autant plus impressionnante que c'est des noms qu'on, alors pas forcément des personnes accusées, mais des boîtes pour lesquelles ils travaillent, qui sont très identifiées, quoi. Il y a Insomniac qui a été obligé de réagir aussi après avoir été accusé d'avoir privilégié les carrières de personnes accusées de harcèlement plutôt que plutôt que les carrières des femmes qui les accusaient. Et un des trucs qu'on voit revenir, un des noms qu'on voit revenir très fréquemment aussi depuis 2 jours, c'est Ubisoft.
Ouais, un peu à tous les niveaux, hein.
Ouais, et c'est des cas très détaillés pour certaines personnes. Et surtout, ça touche pratiquement tous les métiers du jeu vidéo. C'est ça qui est impressionnant. Ça va des postes de direction aux postes plus artistiques, du développeur au community manager. Il y a des streamers. Enfin, c'est vraiment un truc assez massif. Et on voit bien que que ça tient à un système, quoi.
Et à chaque fois, et c'est vrai qu'à chaque fois, on peut le voir, hein, donc sur ce thread. Parce que elle centralise comme ça, Megda Giant, elle centralise les témoignages et on peut voir à partir de ce thread, à chaque fois c'est quand même des tweets longueurs, enfin c'est des longs textes qui sont très détaillés sur les circonstances, sur un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc il y a vraiment une libération de la prise de la parole des victimes dans le milieu du jeu vidéo. On va pas dire qu'on est particulièrement surpris. C'est pas quelque chose qui était inimaginable. Loin de là, on se demandait plus quand est-ce que ça allait arriver que si ça allait arriver. Mais là, c'est vrai que c'est impressionnant et on en est qu'au début de la vague. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là.
Et, les 90% des cas cité, c'est du harcèlement sexuel, des viols. Vraiment,
oui, ça va assez loin. C'est assez crise. Alors moi, je lisais un article.
C'est vraiment pas anodin du tout. Mais il y a aussi des trucs. Excuse-moi. Il y a aussi des trucs qui sont en dehors, qui tiennent au harcèlement racial aussi. Il y a des studios qui sont nommés où on dit clairement qu'il y a une espèce de logique de boys club et de racisme bon ton, enfin de brutalité dans la parole qui va avec. Avec ce type de culture aussi.
Ouais. C'est Gamasutra qui a fait un article. Enfin, il y a une page avec un récap qui est assez flippant. C'est quand on lit les témoignages, c'est assez glaçant.
Ce qu'il faut bien pointer du doigt, c'est que et là-dessus, les réactions des studios, des éditeurs et tout ça vont être rapides. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent.
Il faut.
Ubisoft s'est dit vraiment très concerné par par le sujet, etc. Mais c'est trop tard. Enfin, comment dire, MeToo, c'était pas hier. C'était il y a Gamergate, c'était avant-hier. On sait que le jeu vidéo, dans sa culture, a une composante toxique très importante. Il n'y avait aucune raison, voire même il y avait toutes les raisons de penser que cette situation s'était déroulée et continuait à se dérouler dans le milieu du jeu vidéo. C'est un milieu très masculin. C'est un milieu avec une culture quand même misogyne, à des antécédents. Je dis pas que tous les studios le sont et que toutes les personnes le sont, évidemment. J'ai pas non plus envie de prendre de pincettes pour en parler. Quand il y a eu MeToo, c'est à ce moment-là où moi j'aurais aimé voir les Ubisoft, les Activision, tous les grands noms, Insomniac et tous les autres, dire on prend des mesures maintenant. C'est maintenant où on sait qu'on n'est pas étranger à cette situation, et quand on voit le Gamergate, quand on voit ce que se sont prises les développeuses de jeux vidéo à l'époque du Gamergate, et encore maintenant que quand on voit ce que se prennent les streameuses en commentaire, là il y a des trucs de boycott de Twitch, il y a des choses comme ça, bon, qui sont aussi liées à Black Lives Matter et ce genre de choses.
Mais c'est important aussi, parce que autant tu peux comprendre qu'une entreprise mette du temps à réagir quand il s'agit de virer des gens qui ont l'air essentiels dans une entreprise, alors qu'effectivement il y a rien de bon à garder a priori un prédateur sexuel, ou enfin tu retardes le problème plus qu'autre chose. Mais Twitch, la campagne de boycott, évidemment c'est lié aussi à un mouvement plus large, Black Lives Matter, mais t'as aussi ce truc de réaction plus lente quand il s'agit de femmes qui disent être harcelées. Ça bougeait autrement plus vite quand il y avait des problèmes de prise de parole politique et qu'il fallait couper des micros ou demander à des mecs de fermer leur gueule. Là d'un coup on voyait les entreprises réagir très vite et très fermement.
Mais là,
il y a un peu de poids de mesure qui est voilà.
Et puis là, il y a une multiplication de témoignages. Du coup, il y a aussi ce phénomène de d'encouragement à prendre la parole, raconter ce qui s'est passé.
On n'en est qu'au début. Et moi, le truc, c'est que c'est assez intolérable, justement, que après les mouvements MeToo, Gamergate et toutes les sonnettes d'alarme qui, depuis des années, sont tirées par des militantes, par des développeuses, par les féministes, par toutes ces personnes-là, on arrive forcément à une situation où ces entreprises se retrouvent contraintes, entre guillemets, parce que elles sont mises sur le devant de la scène, comme c'est le cas d'Ubisoft aujourd'hui. Elles se retrouvent contraintes à dire on est deeply concerned, on est embarrassé, nous allons prendre les mesures. Mais les mesures, il faut les prendre avant, il faut être proactif, ça se trouve,
C'est comment c'est identifié en interne. Par exemple, concrètement, quand tu as une boîte aussi ample que celle-là, il faut identifier les personnes qui ont un comportement déviant avec d'autres. C'est faire remonter l'information en interne, c'est faire.
Les victimes puissent être entendues.
C'est qu'il faut.
Un des trucs qui est inquiétant avec les témoignages qu'on a, c'est que à plusieurs reprises, on voit qu'il y a des gens des RH ou liés aux RH qui sont accusés de ça. Comment tu vas aller témoigner d'une agression sexuelle au RH quand tu sais que ça peut tomber sur un, enfin, tu vois. Il y a tout un processus de confiance à établir pour que ce genre de choses émergent. C'est pas un mec, quoi.
Le truc, c'est de faire.
Taper sur Ubisoft, parce que là, c'est vraiment un problème de l'industrie en général. Mais en l'occurrence, là, beaucoup de cas qui remontent sont de chez Ubisoft. Mais pour l'instant, que d'Ubisoft côté américain. Et j'ai pas vu, moi, de prise de position d'Ubisoft France. J'ai pas vu de communiqué de presse encore. J'ai pas vu de... La réaction qu'on a d'Ubi, c'est au micro de Gamasutra.
Gamasutra, oui.
C'est a priori quelqu'un des États-Unis qui répond. C'est une boîte française. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de problème en France. Et que la maison mère ne réponde pas, ça me heurte un peu. Mais... C'est pas peut-être qu'il vaut mieux qu'ils réfléchissent un petit peu avant de répondre juste pour répondre dans le vent, mais
Ah bien sûr.
Et il faut pas voilà, il faut pas oublier que faire de son entreprise une safe place pour tous ses salariés et eux et voilà, c'est pas ça se fait pas en claquant des doigts, c'est pas un truc de bonnes intentions, c'est des processus, c'est des protocoles, ouais. c'est des choses qui sont très concrètes à mettre en place et si tu le fais pas, bah c'est de la non-insistance quoi, c'est pas autre chose. Donc c'est pas pour le coup voilà, il y a une vraie on va voir, ça se trouve Ubisoft va dire on a pris les mesures, ça change, ça évolue, on a pris conscience. On a telle et telle infrastructure qui sont prévues et qui sont designées pour. Après voilà, on attend de voir, mais effectivement, comme tu le dis, Marius, on attend la communication d'Ubisoft France et puis sur des éléments concrets aussi et pas que sur des deeply concerned et des notes un peu outrées dans le vent quoi. De toute façon, on sera amené, je pense, parce que comme on le dit, c'est que le début. On sera sans doute amené à en reparler peut-être dès la
semaine. C'est une bonne chose que ça arrive.
Prochaine.
On est d'accord,
mais
c'est une bonne
sûr,
chose que ça arrive. C'est une très bonne
évidemment,
chose que ça remonte. Ça ne peut que faire évoluer l'industrie dans le bon sens. Ça ne peut que mettre en place justement des. J'ai pas envie de parler de surveillance, mais de vigilance sur ce genre de comportement et aider les futures potentielles victimes à pouvoir tirer une sonnette d'alarme plus rapidement, pouvoir avoir comme on le disait, une écoute. C'est important. C'est vraiment important, même pour la maturité d'une industrie.
Et puis, à terme, ça peut aussi permettre d'ouvrir un peu les portes à une féminisation du métier.
C'est clair. Mais c'est indispensable. Mais bien sûr.
Est-ce qu'on ait davantage de points de vue différents et qu'on soit pas, voilà.
Parce que
c'est quelque chose qui est en train de rentrer aussi. On voit de plus en plus de jeux avec des points de vue queer, des points de vue féminins, mais ça reste minoritaire et voilà.
On peut ça va changer.
Que plus de la moitié des joueurs sont des joueuses et
oui, il va y avoir ce genre de
changer derrière aussi.
Ouais.
Bien sûr.
On avait eu les témoignages. Il y a eu des témoignages il y a quelques années de personnes, de femmes notamment, qui ont quitté le milieu du jeu vidéo parce que justement à cause de d'une ambiance aussi. C'est pas forcément des cas concrets de harcèlement, mais c'est une ambiance toxique qui est peut-être moins nominative que ça, mais voilà, on sait que c'est pas un milieu super accueillant. Et effectivement,
ça change.
Ça va généralement de pair, hein, parce que là, les accusations chez Insomniac, par exemple, je crois qu'il y a une dizaine de cas de personnes qui ont démissionné après.
Ouais.
Des victimes qui ont démissionné.
Ouais.
Donc, ouais,
non seulement tu es victime, mais en plus, tu es ostracisé du milieu derrière.
Ouais, c'est la crainte aussi derrière d'enclencher un cercle vicieux, mais il faut passer par là, il faut que ça avance et suivre ça de près, évidemment.
Et il faut virer ces mecs-là, évidemment. Donc, comme je dis, on sera amené, bien sûr, à en reparler sans doute très vite. Le com des coms de la semaine dernière. Alors le com des coms de la semaine dernière, on va éviter de relancer le débat. Je veux pas relancer le débat, hein, soyons clairs, je ne veux pas relancer le débat. Mais il fallait quand même que je cite quelques commentaires. On va commencer par Nomisis qui fait « Ah là là, Erwan, comment peux-tu, après avoir encensé cette simulation de beauf bas du front dans tous ses aspects qu'était Red Dead 2 il y a 2 ans, passer à côté d'une œuvre délicate, profonde, qui va marquer la décennie à venir, tout média confondu, qui est déjà une référence en termes d'écriture, de possibilités d'interaction quasi inédite entre des personnages touchants et non manichéens, une œuvre qui sera précurseuse à bien des aspects pour la génération vidéoludique à venir. J'ai mal à mon silence en joue. »
Oh là là.
Je pense qu'il y a un peu de, il exagère un peu. Hein. On est dans l'emphase.
C'est passionné, passionnel.
On est dans le passionné. Il nous écoute depuis longtemps, Nomisis, donc on va pas prendre ça totalement au premier degré. Mais quand même.
En tout cas, il polarise hein, ce jeu. Il polarise les avis, c'est tranchant. Hein. On sent que c'est un sujet tranchant.
Palmer qui renchérit, qui dit c'est surtout que le jeu est très très loin de la description revêche qu'en fait Erwan. C'est un jeu radical qui a des choses à raconter, qui le fait extrêmement bien et bien mieux que tout ce qui a pu se faire jusqu'ici et dont le gameplay, certes classique, laisse une place folle aux joueurs. J'enchaîne hein, parce qu'on est toujours sur The Last of Us. Alors il y a d'autres personnes qui vont un peu dans ce sens-là. France Bûche qui nous dit la réaction de, si je ne m'abuse, la réaction de Roger Derwan est d'abord sur le décalage entre son statut autoproclamé d'œuvre ambitieuse artistiquement et finalement de grosses ficelles de gameplay. Je pense que l'origine des questions à charge est d'abord à chercher là et ensuite sur la question de crunch. Belle émission, très intéressante. J'aurais adoré un dernier quart d'heure de discussion avec les spoilers afin de pouvoir approfondir l'analyse. Et alors, bon, en fait, c'est juste.
Ouais, hein, allez, on spoile tout là maintenant.
Ça fait une semaine qu'il est sorti, les mecs. On peut y aller.
Non, c'est juste pour dire que j'ai hésité parce que effectivement, après le générique de fin, on a continué la discussion pendant avec Julie un petit bout de temps et j'avais l'enregistrement et je me suis posé la question, tiens, et si je mettais un bonus, une sorte de bonus track après l'enregistrement, mais c'est toujours problématique. Ouais, écoute, à l'envers. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce que déjà c'était compliqué de prévenir les gens, de dire attention là ça spoil, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un autre auditeur qui regrette que dans Silence on joue on ne revienne pas comme ça a posteriori sur sur des jeux, sur des débats. Il faut on va signaler quand même l'existence de cet excellent podcast La Fin du Game, qui est un podcast pas très très vieux, mais qui à chaque émission comme ça revient totalement sur un jeu et va en profondeur sur tous les aspects du jeu, et c'est vraiment très très bien, et il a un beau succès en plus, donc c'est très cool pour eux. Mais voilà, c'est vrai que on pourrait être amené à le faire. C'est vrai que c'est compliqué aussi quand on est dans un rythme d'actualité avec où on essaie de suivre comme ça les sorties chaque semaine, mais pourquoi pas. Enfin quand même un dernier commentaire de Danny Biker qui dit: je rejoins Patrick, l'argument de la rétrocompatibilité, oui parce qu'on a parlé de ça aussi, est important à mes yeux. Est-ce que je passe mon temps à jouer à mes jeux 360 sur One? Non, évidemment, mais l'intérêt est ailleurs, je pense. C'est un message envoyé aux joueurs qui ont quand même investi pas mal d'euros dans les jeux d'une génération et qui ont dû notamment repasser plus d'une fois à la caisse au cours de celle-ci pour pouvoir rejouer à certains jeux de la précédente. Combien de trous de calendrier ont été comblés cette génération par ce jeu que vous avez adoré, Remastered? À une époque où les architectures des consoles changent moins, où les jeux peuvent être facilement patchés pour mieux tourner, les fameux patchs pour One X ou PS4 Pro, où l'on cherche à nous lier à des écosystèmes plutôt qu'à des machines, demander de ressortir la carte pour un simple lifting graphique me paraît mesquin. La communication de Microsoft nous dit « ne vous en faites pas, on est au courant, on s'en occupe », tandis que les tergiversations de Sony jusque-là semblent nous diriger vers une annonce de PS5, notamment en fer de lance Demon's Souls Remastered. Enfin bon, si un des constructeurs pouvait nous sortir une rétrocompatibilité Top Spin 4 que je puisse ranger ma PS3, et là, rien qu'avec cette phrase, il vient de me faire changer de camp. Je suis hyper pour la rétrocompatibilité d'un coup. Je veux, moi aussi, pouvoir rejouer à Top Spin 4.
Mais c'est vrai, quand tu compares au PC où t'as ton compte Steam, où t'as des jeux depuis 10 ans, voire plus maintenant, que tu as toujours dans ton catalogue, que tu peux lancer en général sans trop de problèmes. Et ça, voilà, ça fait mal, parce que ce côté patrimoine de jeu que tu achètes, que tu entasses pendant 15 ans, t'as envie de continuer à pouvoir en profiter sans les racheter, quoi. Enfin, ça paraît, pose la question de la propriété.
Et mine de rien, quand les enfants grandissent, c'est une question qui va revenir.
Bah oui.
Pour, j'ai joué à tel jeu il y a hyper longtemps, est-ce que...
Ah non, mais c'est clair. J'ai acheté il y a tant d'années.
Est-ce que je peux jouer à Clonoa 2, que j'avais beaucoup aimé à l'époque sur PlayStation 2? Eh ben non. Hein,
ah bah si, peut-être en PlayStation Now, qui est le... Je sais pas s'il est dessus du tout. Hein, mais du coup, c'est encore autre chose.
C'est encore autre chose.
Du coup, on te fait payer un abonnement.
Eh oui. C'est le moment quand même de commencer avec les jeux vidéo. Et on va commencer par un survival. Alors les survival, vous savez, c'est les moments où, c'est pas les survival horreur, c'est les survival, on vous lâche au milieu d'un endroit désertique avec un petit bâton, et il va falloir construire une cabane et s'en sortir et éviter de mourir. Cette fois-ci, ça change un petit peu, le principe reste le même, mais ça change un petit peu. En tout cas, ça s'appelle Among Trees et ça vient tout juste d'arriver en version très très early access. Thank you. Among Trees, donc comme j'ai dit, ça vient de sortir en version très très early access. On est vraiment sur un début de jeu, voire une démo un peu payante. Aux commandes, c'est FJRD Interactive qui se décrit comme une petite équipe basée dans une forêt profonde de Suède. Donc en fait, ils ont pris ce qui était autour d'eux, des arbres, et ils nous ont mis au milieu aussi. Ils nous ont mis au milieu avec eux. On commence, on se réveille, on ouvre les yeux. Il y a une cabane déjà délabrée, mais qui est là quand même à côté de nous. Il va falloir la réparer. Toi, t'es allé au bout de cette première version, Marius. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors au bout, ça veut pas dire grand-chose, mais en gros, je suis arrivé au point où il y a plus rien à crafter, où il y a plus de contenu, quoi. Non, le grand truc, moi, qui m'a fait envie, il y a deux trucs qui m'ont fait envie dans cette alpha, c'est la DA, que je trouve très jolie et qui ressemble à du Firewatch, en gros. C'est quelque chose d'assez cel-shading, assez élégant, et petite touche un peu de peinture.
L'eau polie, en fait,
c'est plutôt élégant, avec beaucoup de camailleux, enfin, c'est assez chouette, et la promesse d'un survival, mais qui serait pas un truc pervers. Qui chercherait pas à buter quand tu ouvres une noix de coco, parce que tu t'es coupé sur le bord de la noix de coco.
Je vois de quoi tu parles, Sylvain.
Ouais. mais un jeu, ouais, voilà, un jeu roudoudou, en gros. Tu ramasses tes petites planches, tu fabriques ta cabane, après, tu chopes 3 champignons pour manger, tu vois que tu peux faire cuire ces champignons si tu te fabriques une cuisine, et tu passes ton temps, en fait, à rechercher des éléments pour crafter derrière d'autres éléments. C'est des boucles qu'on a déjà vues 1000 fois. Ouais. Mais vraiment, hein, y a rien d'original dans le jeu. Mais moi, ça m'a bien plu parce que l'atmosphère est mignonne et apaisante, en fait, plus que mignonne. Y a pas trop de violence dans le jeu. Le seul ennemi, en plus, il y en a pas beaucoup, c'est des ours.
Ouais,
en gros, c'est un ours quelques ours qui traînent dans la forêt. Où là, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire que de fuir ou de rester caché dans les buissons. Mais
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cannibales, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de cannibales, il n'y a rien qui tombe sur la gueule. Tu dois gérer ta faim, mais pas ta soif, ce qui est plutôt pratique quand même. Manger, c'est quand même extrêmement facile parce que il suffit de trouver un champignon pour être rassasié pendant quelques minutes. Et en gros, il y a tout ce qu'il faut. Et t'as une jauge de froid qui est censée être active, mais qui, là, dans les faits, ne devient un danger que si tu restes dans l'eau un moment un peu long. Donc c'est franchement, les risques sont minimes. Et c'est pas déplaisant. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est de voir que tu peux rentrer dans des boucles de craft qui servent à rien, hein, on va pas se mentir. mais tu peux être bien dans un jeu... comme ça, sans manquer de crever toutes les 10 minutes, en fait.
Il faut imaginer Sisyphe heureux, comme dirait.
Ouais.
Camille. Non, en fait, tu t'accomplis dans cette routine qui se pose tout doucement, en fait.
Voilà, le plaisir est plus dans le moment où tu te familiarises avec la forêt, où tu sais exactement où tu vas, sans regarder ta carte, sans regarder. Enfin, moi, j'ai pas crafté de boussole, par exemple, parce que j'en avais pas besoin. La carte est grande, mais pas immense. Et t'as le temps de comprendre que les chemins se dessinent en fonction de tels éléments de géographie et compagnie, et c'est assez plaisant.
T'as décroché, est-ce que tu t'ennuyais ou
parce non, j'ai vraiment décroché parce que j'ai fait en gros ta cabane, tu peux construire des extensions, une salle pour fabriquer des petits outils, une salle pour une salle cuisine, une serre pour faire pousser tes propres radis, tes propres trucs, et puis à l'étage pour avoir davantage de stockage. Ça te prend un peu de temps, il faut à chaque fois trouver comment débloquer ce truc-là, et voilà, c'est juste des mini-énigmes, comment réussir à crafter ce truc-là, à partir de quoi, où le trouver, et voir comment, si tu débloques ce truc-là, ça va te débloquer un autre bidule qui va te permettre de créer ta pièce. Mais c'est suffisamment propre et joli pour que ce soit plaisant, en fait.
Et c'est vrai que c'est ça se ressent dès le premier contact dans Among Trees. Déjà, c'est un jeu de survival qui te propose un mode zen. Donc déjà, non mais ça veut dire qu'ils ont ils sont suffisamment sûrs d'eux pour dire que si on enlève tout danger et tout au risque de mourir, notre jeu peut continuer à être intéressant. C'est-à-dire que ils prennent la survie, mais dans ce qu'elle a de ludique, en fait, dans ce qu'elle a de marrant, d'améliorer. C'est vrai qu'aménager sa maison, quand tu m'en as parlé, t'as fait une comparaison avec Animal Crossing, finalement, qui est voilà, un côté très presque reposant de la survie, enfin, où on va aménager son chez-soi pour pouvoir mieux profiter de l'espace, en fait.
Ah ouais, moi, clairement, je me suis crafté des petites sculptures de chouettes, trucs comme ça, que j'étais content de mettre dans mon intérieur.
Ah oui, quand même.
Ouais, ouais, non, mais il y a un truc d'unité, mais qui est plaisant, bah, comme du Animal Crossing, quoi.
Ouais.
Mais c'est là, la même approche un peu zen du jeu vidéo que tu fais à la cool en te mettant de la musique à côté, enfin. Sans côté performatif du tout, quoi.
On en a parlé un petit peu avant l'émission. Moi, je l'ai voulu le lancer sur mon PC. Bon, j'ai un PC qui date maintenant de quelques années, hein. C'est une tortue, hein. Mais ma bécane soufflait comme c'est pas possible. J'ai vraiment eu du mal à le lancer. En fait, il ramait complètement. Puis, on pouvait pas redéfinir les touches. Alors, ça, c'est un truc, parce qu'il est en mode alpha, hein. Il est pas terminé. Ouais. Donc, tout ça est très bien expliqué dans la superbe interface. Bon, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu un contact super friendly avec. Tout de suite, j'ai pas eu le coup de cœur. Mais bon, je comprends. D'après ce que tu en dis,
Non, il y a vraiment un potentiel. Alors c'est vrai qu'il n'est pas du tout optimisé, c'est-à-dire que mon PC, ouais. Moi qui fais tourner Assassin's Creed Odyssey, pas forcément avec tous les curseurs au max, mais de manière très bien et très fluide, il a galéré. J'ai eu des moments de freeze sur. Alors que on est sur du low poly, mais ils ont mis un effet de flou. Un flou cinétique à certains moments et j'ai l'impression qu'il est un peu codé avec les pieds, mais bon, ça va s'améliorer. C'est comme tu dis, c'est une alpha early access alpha, enfin donc tout ça. Mais moi j'ai trouvé l'idée vraiment séduisante et surtout séduisante après, en fait. C'est-à-dire que là ils ont posé les bases, mais on sait qu'un survival les 5 ou 6 premières heures c'est un peu la découverte et c'est après où il peut y avoir une proposition. Moi, là où je suis curieux, c'est qu'est-ce qu'ils vont mettre après le contenu qui compose un peu cette version alpha, ou est-ce qu'ils vont décider que ça puisse prendre de l'ampleur, mettre d'autres lieux, enfin, je sais pas, il y a un côté très curieux.
Oh, tu peux jouer déjà sur la météo qui est quasiment pas présente, là, t'as juste quelques petites pluies mais qui n'ont aucune incidence. Je pense qu'il y a plein de petites mécaniques un petit peu plus rudes de survie qui peuvent être introduites sans pervertir, enfin, sans le transformer en truc hardcore, parce que là, rien qu'en, en gros, tu peux crafter aussi des vêtements pour être, pour avoir plus de stamina, plus de résistance au froid. Je l'ai fait, parce que ça m'amusait, mais ça sert à rien. Vraiment à rien, quoi.
Et donc, t'es quand même bien rentré dedans, c'est-à-dire que aussi tu...
Ah non, moi, ça m'a vraiment plu, j'étais tout content de me fabriquer une tente pour faire des expéditions plus lointaines, quand bien même j'avais aucun besoin de faire des expéditions plus lointaines. Mais voilà. Pour être honnête, je pense que le jeu coûte 16 balles, je crois.
Ouais.
En l'état, je trouve que c'est un peu cher parce que voilà.
Mais il y a du potentiel de.
En 9 heures, t'as fait le tour du truc et y a rien de vraiment neuf.
Ouais.
Mais un jeu s'il s'enrichit, il y a vraiment moyen d'en faire un survival assez chouette.
Après, il est peut-être moins tape à l'œil, tu vois, que c'était le Stranded Deep, hein, qu'on avait lancé, dont on avait parlé, qui est beaucoup plus visuellement. Il y a une sorte de baffe visuelle quand on lance sur la petite plage, tout ça. Là,
c'est marrant, je suis pas d'accord, moi. Non, j'étais vachement plus attiré par les bois et.
Et moi, j'avais une image seconde en même temps.
Le moment où tu sors de ta petite cabane au matin et que t'as le soleil qui lève dans la forêt et tout ça, ça me parlait vachement plus que l'heure et demie à essayer de crafter une putain de
le feu de camp sur la plage, c'est joli, ça.
Oui, c'est joli, mais
le soleil qui se couche.
Tu vois, une heure et quelques avant de créer ton point de sauvegarde, je trouve que c'est pas cool.
Ouais.
Là, tu fais ta cabane et ton point de sauvegarde en 5 minutes, quoi.
Ouais. Et ça.
Enfin, c'est pas pour les merdards, mais.
Among Trees, donc on va suivre quand même. C'est vrai qu'on va pas forcément conseiller l'achat à 16€ actuellement, sauf si c'est une sorte de proposition que les gens attendaient. Moi, je pense qu'il peut y avoir des gens qui sont un peu frustrés de pas comme moi qui était j'avais l'impression que les survival me parlaient pas moi ça me faisait toujours flipper et je comprends enfin bon bref avec des cannibales ou avec des requins enfin bon bref c'est toujours un peu un problème et c'est vrai que là j'ai trouvé la proposition très beaucoup plus raccord en fait avec
c'est un peu con mais je pense que ça ferait un très bon survival console.
Ouais.
Sur le côté un peu de chill dans le canapé plutôt que devant son PC assis avec.
C'est clair.
C'est un clair. Bon moyen de rentrer dans le genre en tout cas, je pense. Si ça s'étoffe.
Alors, j'étais obligé de le mettre au programme parce que je me suis donné comme mission et les auditeurs commencent à le comprendre pour leur plus grand malheur de suivre la sortie de l'actualité du deck building et de ces jeux de cartes où je conclue toujours mes interventions par c'est un peu comme Slay the Spire en moins bien et donc c'est
toujours,
un peu récurrent
en fait.
En fait il me fallait parler de celui-là et il s'appelle Fight in Tight Spaces. Alors, Fight in Tight Spaces, je l'avais repéré à un moment où le développeur, qui est Ground Shatter, avait posté une vidéo sur son Twitter et quelqu'un l'avait retweeté. Enfin bon, bref, j'étais là, waouh, je veux y jouer. Je crois que j'avais été même dans les green lights de Steam. Enfin, j'avais mis sur ma wishlist. Enfin bon, bref. Pourquoi ? Parce que Fight in Tight Spaces, en fait, c'est un jeu qui s'inspire d'un passage très particulier, on va dire. C'est un jeu qui s'inspire, vous allez voir de quoi je parle, du Bathroom Fight de Mission Impossible Fallout. Est-ce que vous voyez de quoi je parle?
Oui, bien sûr. Ah oui, la baston où il casse toute la, bien sûr, oui, il casse
voilà.
toute la.
Voilà. Dans la salle de bain, enfin, dans les toilettes, puis dans les toilettes publiques, il y a une scène de baston, vraiment, qui est emblématique.
Superman, l'acteur de Superman.
Qui m'a marqué, en tout cas, les gens, dans Mission Impossible Fallout, le dernier de la série. Et donc là, c'est un jeu qui s'inspire de ça. Et du deck building. Donc,
Quel rapport?
Bah, déjà, le titre, Fight in Tight Spaces, hein, voilà. Et donc, on va prendre les points communs qu'il y a avec Slay the Spire, comme ça, ce sera évacué. Les points communs, c'est une arborescence, donc on va choisir un peu sa direction. On a un arbre à chaque fois. Avec un combat à chaque étape et puis on va choisir aller vers le métro ou aller vers des toilettes publiques parce qu'il y en a etc. Donc des combats comme ça dans une sorte d'arborescence et puis à chaque fois il y a la possibilité d'améliorer ses cartes, d'en retirer de son deck, de se soigner, d'obtenir comme ça des avantages et des nouvelles cartes, d'acheter des nouvelles cartes. Voilà pour le contexte. Après, ça a plus grand chose à voir. Alors après, le design est, moi, je le trouve vraiment très bon. C'est-à-dire, c'est très épuré, mais où ils ont fait énormément d'efforts sur l'animation des personnages. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on joue un type, un bonhomme, au milieu d'une toute petite pièce qui va faire, grosso modo, 6 carrés sur 6 carrés. Et il y a 2 ou 3 autres mecs qui sont là, qui vont essayer de te maraver la tête. Et donc en fait tout l'idée c'est avec ces cartes on va se déplacer, contourner les mecs, utiliser les éléments du décor, donner un simple coup de poing, donner un coup de pied, etc. Et on a à chaque fois 3 points d'action qu'on va dépenser comme ça avec des cartes qui composent le deck. Et il va falloir comme ça éviter de se retrouver encerclé dans un coin, utiliser les éléments du décor et utiliser le placement des personnages les uns avec les autres. Parce que grosso modo, avec il y a une subtilité, donc c'est un jeu où on va se déplacer, on va utiliser comme ça la mini-map. Mais il y a une subtilité qui est vraiment qui fait tout le sel du truc, c'est que au moment où on va jouer, les adversaires ont déjà une action enregistrée. C'est-à-dire, il y a un mec qui va taper devant lui. Généralement, c'est parce que t'es devant lui, donc il va décider de taper devant lui. Le mec qui a un flingue, il va tirer vers toi, etc. Et donc, toi, avec tes cartes... Ouais, tu le sais, ouais.
Ce qu'il va faire, ouais.
Ouais, tu sais ce qu'il va faire. Et donc, avec tes cartes, Et ben toi tu vas taper un mec, et ben il va reculer d'une case, ou alors le prendre et le décaler à droite, et donc il va arriver entre toi et le mec qui te tire dessus. Donc comme ça tu vas pouvoir ils vont finir par se battre entre eux, ou carrément les mettre face à face, c'est-à-dire ils ont décidé de te donner un coup de poing, et ben tu les mets face à face et ils vont chacun se taper à la place de te taper à toi. De te taper
donc, en
toi.
Fait c'est comme ce comment il s'appelle ce STR ce jeu tactique là avec les robots où tu connais le
oui.
coup à l'avance et...
Island attends, je sais plus. Non, c'est pas Island. On va le retrouver.
Ouais.
On va le retrouver.
En fait, c'est horrible parce que tu sais ce que les autres font.
Oui.
Et c'est à toi de pas te louper, quoi.
Ouais, mais sauf que là, la différence avec ce jeu dont je n'arrive pas non plus à retrouver le jeu, c'est qu'on était très très libre dans ses actions et donc moi je me prenais la tête à chaque fois pour essayer de savoir la meilleure combo. Sauf que là, en fait, tes combos, elles sont limitées par les 4 cartes que t'as en main. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que t'as que 4 ou 5 actions que tu peux faire. Et en plus, t'as 3 points d'action. Donc, tu sais que tu as que 3 points d'action, mais t'as le choix entre 5. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de s'en sortir. Et franchement, ça passe super bien. Alors, pour l'instant, ce qui est accessible, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est une démo. Elle est gratuite. Elle est disponible sur Steam. Il y a quand même pas mal de choses, hein. On voit totalement le concept. Mais bon, après c'est les mêmes combats, c'est la même structure à chaque fois, c'est les mêmes boss, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Mais franchement, il y a plein de petites idées vachement sympas où on va comme ça contourner un mec, on va se retrouver derrière lui, on va pouvoir le prendre, lui éclater la tête contre la table basse et le mettre devant l'abruti qui essaye de nous tirer dessus. Et en fait, ça permet comme ça de faire des combos. Et il y a et vu que l'animation est hyper bien soignée, et ben ça, il y a cette impression comme ça d'être dans un film d'action alors qu'on est dans un rogue deck builder. Et c'est une sorte d'impression qui est très 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 originale. Voilà, je voulais absolument vous en parler parce que c'est très prometteur et je m'attendais pas à voir la démo aussi vite. Il parle d'une version, il parle d'une sortie pour 2020. Donc on suivra. Je voulais quand même vous lire un petit passage pour terminer de la description de Ground Shatter, qui est donc le studio, où ils disent Ground Shatter, ce n'est pas de l'art. À moins que vous considériez que votre idée de l'art, c'est 4 assassins qui se battent dans une tour en train d'exploser, auquel cas, c'est un putain de chef-d'œuvre. Ground Shatter, c'est tous les films de Jason Statham dans l'ordre.
Oh non.
Voilà. Et donc, quelque
c'est
part.
Eux qui ont dit ça.
Oui, c'est dans la description de leur studio.
Ah
hein,
oui,
c'est, c'est pour dire un peu la perception.
Oui, ça situe un petit
tu
peu.
Tu as retrouvé le nom du jeu, Marius.
Into
the Breach, merci. Effectivement, nous pensions au même. Voilà, donc ça s'appelle Fight in Tight Spaces. Vous pouvez retrouver la démo sur Steam. C'est le moment, bien sûr, d'accueillir la chronique, l'avant-dernière chronique de la 13e saison. La chronique de jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
Salut Erwan, il y a quelques années j'ai eu l'opportunité de déambuler dans les casinos de Nassau aux Bahamas et je peux t'assurer que n'ayant pas les grosses liasses de billets à dépenser, je me suis un petit peu fait chier. Et c'est pour cette raison que je comprends parfaitement la motivation des personnages du jeu dont on va parler aujourd'hui. Son nom, Bahamas. Et oui, le braquage était parfait, un plan sans accroc, des millions dans un sac, une fuite en avion. Probablement depuis Miami d'ailleurs, c'est à peu près une trentaine de minutes en avion, c'est la durée de ce jeu, ça doit être ça, Miami. Et là soudain, le moteur commence à tout et l'avion commence doucement sa chute. Vous inquiétez pas, les gangsters avaient vraiment tout prévu. Ah non, là, il manque un parachute. Vous avez compris, il s'agit d'un jeu d'ambiance où on va se mettre sur la gueule pour récupérer un parachute ou plusieurs parachutes. Mais évidemment, il ne faudra pas oublier de bien remplir son sac avant de sauter. Avec des billets, par exemple. Au début de la partie, on va distribuer les cartes personnages. Ils ont chacun des pouvoirs bien spécifiques qui permettront, par exemple, de piocher plus de cartes ou de regarder les cartes des autres, etc. Il y a des cartes pognon, évidemment. 200 000, 400 000, 500 000 dollars. Et enfin, des cartes actions qui vous permettront de voler des cartes, d'annuler le pouvoir des cartes des autres et plein de choses. Certaines cartes actions vont cacher des parachutes supplémentaires et puis il y a aussi des badges FBI, et oui, forcément, on s'y attendait. Et puis on prendra le nombre de dés moins 1, le nombre de joueurs. Donc s'il y a 8 joueurs, il y aura 7 dés. Oui, on peut jouer à beaucoup à ce jeu. Au début de la manche, on jette tous les dés, puis les joueurs pourront choisir tour à tour un dé, puis désigner le joueur qui va les suivre pour prendre le dé suivant. Ce sont donc les joueurs qui décident de l'ordre du tour. Évidemment, évidemment, comme il y a moins de dés que de joueurs, le joueur qui n'aura pas reçu de dés pourra commencer et faire la première action. Je vais vous décrire les 6 faces d'un dé, vous allez tout de suite comprendre la mécanique du jeu. Piocher une carte action, piocher une carte pognon, activer le pouvoir du personnage, choisir un joueur pour lui piquer sa carte action, ou choisir un joueur pour lui piquer une carte pognon. Et voilà, la partie peut se terminer instantanément si à tout moment un joueur possède les 3 cartes FBI, ou au moment où on pioche la carte crash, on regarde qui a un parachute, qui n'en a pas, et parmi ceux qui ont un parachute, on va compter le pognon. Voilà. Celui qui en a le plus sera déclaré vainqueur et pourra aller faire ce que moi je n'ai pas pu faire, c'est-à-dire aller dépenser plein de pognon dans les casinos des Bahamas. Vous avez compris quel type de délire est ce jeu. De 4 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Tranquille, à partir de 10 ans, il y a des textes à lire sur les cartes, mais sinon, la mécanique, simple. L'auteur Nicolas Normando, c'est édité chez Matago, ça coûte entre 13 et 15 euros. Et moi je vous dis à bientôt pour vous offrir ce que la vie ne vous a pas offert. Sauf le parachute. Bye bye.
Bye bye Jérémy, à la semaine prochaine. Si tout se passe bien, Jérémy sera avec nous pour la dernière de la saison 13 de Silence on joue. C'est le moment de partir en 1888 dans le Wyoming, et plus précisément dans le purgatoire du Wyoming. Je ne sais pas si ça existe en vrai, mais en tout cas, c'est là où ça...
Je crois, en fait, c'est un purgatoire réservé aux gens du Wyoming, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est un purgatoire du Wyoming. Donc on joue un mort, hein, c'est une fois n'est pas coutume. Et Pistolero, on est dans l'ambiance Far West, mais pas que. Ça s'appelle West of Dead.
They say there ain't no such thing as a good death. Depends on which side of the gun you're on. And what you're fighting for.
West of Dead, on est toujours, si on veut continuer sur Fighting Tight Spaces, on est dans le rogue. C'est vraiment une des grosses tendances quand même de cette saison, c'est la multiplication des offres sur ce genre précisément. Enfin, ça fait déjà quelques années que ça a commencé. West of Dead, on est dans le rogue, on est dans le rogue du cover shooting, ce qui, moi, j'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Patrick, alors à quoi ça ressemble West of Dead
pour tout vous dire, les amis, moi j'avais tilté, alors, je ne sais plus si c'était une présentation Microsoft, alors, je ne sais plus si c'était autour de l'E3 l'année dernière, ou... je l'avais vu lors d'une conférence Microsoft et il m'avait tapé dans l'œil directement ce jeu pour son visuel. En fait, il a déjà d'emblée, je trouve qu'il a un look, il a une dégaine, il a un visuel... pour situer, donc on est sur du jeu d'action, ce qu'on appelle du twin stick shooter, donc où on dirige un personnage et puis on dirige nos deux sticks pour viser, mais avec un look BD cel shading très très marqué, qui a vraiment une identité propre, particulière,
complètement volé sur le travail de Mike Mignola, pour le coup.
Ouais, qui ressemble beaucoup, vraiment, ouais, je pensais à son Dracula, ou... Ouais,
c'est Hellboy, clair. C'est clairement Hellboy, mais avec la tête de Ghost Rider.
Et Ghost Rider, avec un personnage, oui, ce revenant pistolero qui a sa tête en flamme. Alors en fait, c'est Raw Fury qui a dit ça, et c'est un studio donc qui s'appelle Upstream Arcade, qui est composé de 4 personnes. Alors c'est des gens qui viennent de Lionhead, ou qui sont passés a priori par Max Payne aussi. Et ça m'a, en y jouant, ça m'a sauté au visage. En fait, c'est qu'il y a vraiment une composante, en fait, de comme tu disais, de cover. C'est vraiment là où je trouve où le jeu crée la surprise. C'est qu'on pense au début devant un classique twin stick shooter où on enchaîne les niveaux, on se balade dans les pièces, on désingue tout ce qui se passe. Mais si on avance comme ça, on se fait vite, très très vite sécher, en fait.
Ouais.
Toute une partie du jeu, donc, qui repose, comme tu le disais en intro, hein, sur du roguelike, donc avec des niveaux qu'on va faire évoluer, un équipement aussi qu'on fait progresser, de l'or qu'on assimile, etc., pour enrichir son équipement. Mais surtout, la vraie surprise, c'est ce côté cover, effectivement, où on rentre dans les niveaux, dans les pièces, dans chaque pièce où on rentre, la première chose, première étape, hein, très vite, on prend des... Au début, j'ai morflé, hein. C'est un jeu qui est pas facile, hein. Il faut s'accrocher, il faut y aller, il faut prendre certains automatismes. En général, on arrive dans une pièce qui est... T'es dans le noir, tu vois pas grand chose, tu vois pas où sont les assaillants. Alors, il faut vite les identifier. Alors, si tu peux te déplacer, allumer, il y a aussi un jeu que la lumière permet d'immobiliser un petit peu les ennemis. Et surtout, de voir où ils sont, il faut les repérer pour les viser. Et surtout, ce cover, on se cache derrière des éléments destructibles des niveaux. C'est important. C'est-à-dire que c'est vraiment là où je trouve le jeu réussit à te donner cette sensation de gunfight sec, comme tu as dans les westerns, en fait, où vraiment, tu as les munitions sont illimitées. Par contre, tu as vraiment ce jeu avec ton équipement. On a les deux gâchettes dans chaque main. Tu as une arme différente. Alors évidemment, idéalement, je trouve que le mieux, l'équilibre, c'est d'avoir un pistolet qui tire d'un côté sur les ennemis un peu plus loin, ou un fusil à pompe dans l'autre bras qui permet d'avoir des coups plus puissants mais plus proches. Donc pour ajuster ton tir selon l'ennemi là où il se trouve par rapport à toi. Donc on joue avec la lumière, on joue avec l'emplacement des ennemis, et surtout on est vraiment sur ce cover. On doit se cacher dans les éléments de décor, allumer les lampes pour fragiliser les ennemis. Et je trouve que c'est très très bien fichu. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on est sur une action en temps réel, pure et dure. Mais malgré tout, je trouve qu'on a, avec ces armes mécaniques, ces fusils, ces pistolets de western, en fait, ces armes mécaniques rythment les combats finalement. C'est-à-dire que t'es vraiment obligé de compter le nombre de coups, recharger. Et finalement, malgré ce temps réel, t'es quasiment, je sais pas ce que vous en avez pensé, on est quasiment sur du tour par tour, un peu déguisé. Je trouve, c'est que t'es vraiment obligé de calculer tes coups. Combien de balles tu as dans ton barillet avant de éventuellement outreplier ou avancer vers une autre planque. En fait, ça a l'air d'un jeu d'action, mais il y a un vrai côté tactique, je trouve, lors des combats. Et c'est vraiment une très bonne surprise. Moi, je trouve que
Marius.
Ce côté,
d'autant que t'es encouragé à n'intervenir qu'après. En gros, au début du jeu, t'as deux types d'ennemis. Un qui n'a pas d'arme à feu, mais qui te traque physiquement.
Se jette sur toi.
Et des fusillés. Et typiquement, les types qui ont un fusil ne tirent leur coup que... Enfin, donc deux coups et les tirs à intervalles secs. Donc en gros, tu passes ton temps à sortir de couverture quand ils rechargent pour toi vider ton flingue sur eux ou à te planquer quand tu sens que le truc va venir. Pour ça, c'est plutôt efficace. Moi, il y a un truc, je suis resté vraiment pour la DA que je trouve super. C'est magnifique. Le truc, le côté Mignola est assumé au point que c'est Ron Perlman. Qui fait la voix, donc il faisait Hellboy dans l'adaptation en film de Mignola, qui fait la voix du personnage principal. Donc il y a vraiment cette DA qui est super forte, mais ce qui me retient vraiment, c'est que je ne comprends pas le timing de rechargement des flingues, des différentes armes.
Elle est bizarre,
Je piche pas du tout dans à quel rythme ça se fait. J'ai l'impression qu'il y a des moments où je suis en contrôle et d'autres où il y a un temps de cooldown, je sais pas, que je saisis pas, et ça me frustre quand t'as presque fini ton premier niveau, parce que tu sens que t'es vraiment loin, et que tu te retrouves face à deux mecs, avec des armes que tu presses la gâchette, mais il se passe rien, puis tu comprends pas.
En fait, il faut vraiment tout le temps surveiller, en fait, les petites icônes en bas, là, où tu vois ton barillet, en fait, où t'en es,
anticiper.
C'est pas comme si t'es actif en permanence, en fait.
Ouais. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis assez d'accord. J'ai eu un peu de mal aussi sur ces timings. Moi, comme vous, je suis hyper séduit par l'identité du jeu, et d'autant plus par la réalisation technique du truc. Ouais. Parce que c'est pas évident comme ça de faire un choix esthétique basé vachement sur l'ombre et la lumière, et avec du cel shading, c'est-à-dire du cel shading qui change en fonction de l'éclairage. Bah, c'est pas évident techniquement que ça passe bien, que ça rende un résultat esthétique sur une 3D isométrique en plus. Et
en plus, ce jeu de lumière, ce travail sur l'ombre est assumé jusque dans le jeu avec le fait que tu dois éclairer les pièces.
Ouais.
Et,
ça, c'est bien fichu.
Ça, t'as une cohérence d'ensemble qui est chouette.
Ouais.
Il y a vraiment des mécaniques que tu dois apprendre au fil de tes parties, parce que tu meurs très souvent, hein, comme dans tout bon roguelike. Mais tu optimises. Je trouve que t'as vraiment une courbe de progression dans justement maîtriser l'environnement, maîtriser tes. Je trouve vraiment qu'il est. Puis chaque arme a un feeling différent, justement. Je trouve. Tu peux vraiment t'amuser à sortir différemment tes deux armes en main, et t'as un gameplay qui vraiment est modifié. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Puis évidemment, tu peux les optimiser. Tu peux optimiser ta vitesse de rechargement. Je crois ton énergie. Enfin, moi, vraiment une très bonne surprise et super addictif. Et ça, c'est la base d'un bon roguelike, c'est que t'en prends plein la tronche, tu meurs des dizaines de fois, mais t'y reviens toujours. Parce que
la référence, pour le coup, moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une partie de l'esprit de Dead Cells
Oui,
qui s'était qui était arrivé là-dedans truc, en fait. Oui, oui, c'est plutôt un compliment, mais que ce soit sur les armes que tu débloques, les récompenses que tu vas trouver après une salle bien remplie, eh ben tu vas avoir un couloir et au bout du couloir tu vas avoir un coffre, tu vas avoir un marchand, tu vas avoir comme ça des tous les éléments. Et évidemment les développeurs ne se sont pas fait prier vu que t'es dans le purgatoire. Ils ont fait ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que t'as des coffres, t'as des trucs qui vont permettre de améliorer ta vitalité, ta vitesse, les dégâts des armes, etc. Donc on est complètement dans le rogue avec ces trucs à débloquer aussi que tu vas retrouver au run d'après, genre la fiole de vie. La fiole de vie, ça m'a fait trop penser à Dead Cells, quoi. Quand tu la débloques, tu t'es dit, mais c'est le même jeu, en fait, sauf que c'est pas le même jeu, quoi. Enfin, il y avait vraiment comme ça dans le rythme et dans le côté très gratifiant, je trouve, de la réussite. Quand tu réussis, West of Dead, t'es hyper content quand tu réussis. Mais même, en plus, ça réussit. Cette satisfaction, elle arrive vite. Je veux dire, quand t'arrives à passer le premier niveau, t'es hyper content, tu vois.
Quand tu vis d'une salle, hein, quand tu vis d'une salle où des fois tu peux bloquer sur une salle avec un mec qui est mal positionné, t'arrives pas à bien le voir. Et c'est tout bête, mais t'as un petit jingle sonore quand tu finis le dernier ennemi d'une salle. C'est tout bête, mais et en fait, le jeu il marche beaucoup comme ça. En fait, oui, c'est de la récompense. Ça va être un jingle sonore. Ça va être.
Mais là-dessus, sur ce système de récompense, justement, sur le truc de gratifier le joueur avec une nouvelle arme, niveau 2, niveau 3, qui va tirer deux coups, qui a une recharge en plus, qui va avoir plus de dégâts, ou cette fiole, et du coup, c'est tout ce système qui était très très présent dans Dead Cells, où tu vas faire 3-4 runs où tu vas juste mourir bêtement, mais vu que y a pas de temps de recharge, que ça tu repars très vite, et vu que l'univers est quand même très très sympa, t'as envie de recommencer. Et puis au bout de ces 3-4 runs, tu vas avoir une récompense que tu vas pouvoir reprendre avec toi le run suivant, ou quelque chose que tu vas comprendre. Moi je sais que j'ai quand même du mal sur les contrôles. Notamment pour se servir des armes supplémentaires, les armes de corps à corps, les grenades et tout ça. Ça commence à faire trop de boutons pour moi. J'avoue que ne serait-ce qu'une arme gâchette gauche et gâchette droite, moi c'est un peu mon max, hein. Tu vois, avec une mécanique de tir de loin où tu vas garder la gâchette gauche ou droite, suivant où elle est, appuyer le temps que tu vises, et puis là tu relèves, alors que le shotgun, dès que t'appuies tu tires. Rien que ça fait deux systèmes de timing différents, c'est déjà beaucoup. Et moi, les boutons pour les armes supplémentaires, j'ai beaucoup de mal. Après, en plus, il y a les boutons pour sauter par-dessus les obstacles, faire des roulades, etc., allumer les lumières.
Pour le coup, il est vraiment nécessaire, ce bouton.
Il
apprend à dompter assez vite.
Mais du coup, on est vraiment aussi dans ce rogue où t'as cette courbe d'apprentissage personnelle. C'est-à-dire que t'as non, mais c'est vrai. Et là aussi, ça me rappelle Dead Cells. On est face à soi, quoi. C'est-à-dire même si le rogue, il te permet d'avoir des petites améliorations au fur et à mesure dans tes runs suivants, la vraie amélioration, c'est toi.
C'est toi.
C'est toi le problème quand tu meurs.
C'est toi qui assimile les codes, les références, etc. Ouais. Alors le truc, c'est que évidemment, rogue oblige. On est sur de la génération de niveau aléatoire. Ça, c'est la base aussi. Et parfois, je trouve que du coup, on a des problèmes de visibilité parfois avec la 3D isométrique. Je trouve qu'il y a des parfois où tu vois pas bien une porte. Bon, c'est un détail. C'est pas du tout. Ça bloque pas le jeu, mais parfois t'as un manque de confort. J'aurais pas été contre une caméra qui puisse bouger un petit peu ou des choses comme ça. Mais il est super en ballon, ce jeu. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a un cachet, il a un truc, quoi. Et il y a un truc de Max Payne dedans, je trouve. Ouais. Même t'as un petit ralenti des fois quand t'évites une balle ou il y a un petit truc de poseur parfois que je trouve vraiment bien réussi. Ouais.
Moi, dernier point, mais je trouve que tu parlais du level design et je trouve que encore une fois, un peu comme Dead Cells, même si tu peux avoir des problèmes de visibilité, je trouve que le level design généré, ça donne des niveaux qui sont plutôt cool. C'est-à-dire que moi, je sais que très souvent, et ben tu voyages en niveau et sans trop t'en apercevoir, tu vas aller chercher tous les bonus, tu vas aller chercher un peu les salles un peu cachées, un peu lointaines au bout des couloirs avant d'arriver à la fin du niveau. Je trouve que tout est assez bien construit comme ça pour que t'aies un vrai sentiment d'exploration et de un peu d'achievement qui est très présent et qui est super indispensable dans ce genre de jeu un peu punitif aussi, parce que c'est vrai que, et Marius tu ne vas pas me démentir, on meurt beaucoup.
Ah, moi je suis super nul, je comprends pas là. Il y a toujours un moment où je me retrouve à poil en termes de munitions sans comprendre pourquoi et...
le cover, c'est vrai que le cover en fait c'est un cover automatique
Un truc magnétique un peu bizarre aussi.
Et qui est parfois bizarre. C'est-à-dire qu'il faut prendre le coup. Il est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, le perso se plaque automatiquement, derrière un objet. Parce que il le fait automatique. Bon, il faut prendre l'habitude. C'est pas forcément inné tout de suite. Ça fait partie de ces codes du jeu qu'il faut vraiment assimiler. Une fois qu'on les a en main, on s'éclate, hein, vraiment. Une intensité dans les gunfights.
Mais sincèrement, moi je sais pas s'ils vont faire un peu le même suivi un peu un peu comme ça, un peu comment dire, un peu perfectionniste qu'a pu faire Motion Twin sur son jeu, parce que c'est vrai que entre le jour de sa sortie et maintenant Dead Cells, ça a pratiquement plus rien à voir tellement ça a été peaufiné jusqu'en dans les moindres détails. Mais je pense que si West of Dead, eh ben il a ce potentiel là, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le jeu parfait, il a des défauts comme tu l'a signalé Marius, mais que si ils le retravaillent, s'ils vont vraiment loin dans les détails, dans le fait de faire attention à certains trucs, je trouve que c'est vraiment un jeu qui a un super potentiel. Je crois qu'il y a vraiment une bonne patte là-dessus.
Moi j'aime vraiment beaucoup le cel shading, quoi. Je trouve que c'est un truc qui est sous-estimé, qui rend vachement vite les choses très beaux, quoi.
Ouais. Cette tête de squelette en flamme, quand même, c'est...
Ah, c'est très Ghost Rider, c'est un peu difficile de pas y penser, mais...
Ouais, mais c'est un peu classe, quand même. C'est un peu classe.
Ah, mais il est magnifique, et on se lasse pas, en plus. Moi, j'ai déjà passé quelques heures dessus, on s'en lasse pas, en fait. À chaque nouvelle partie, tu dévores le look, quoi. Il a vraiment un cachet... Super caché.
C'est, ça s'appelle West of Dead, c'est disponible sur Xbox One, a priori dans le Game Pass, ça arrive sur PS4 et Switch, et c'est disponible aussi sur PC, une vingtaine d'euros. Eh bien, maintenant, on était un peu obligé, un jeu comme ça, un FPS old school qui arrive, qui était déjà sorti sur PC, mais qui débarque sur console, qui débarque maintenant sur ces jours-ci sur PS4, je crois, et peut-être les autres aussi.
Sur Switch.
Sur Switch, bien sûr. il a été développé. Alors j'ai lu ça, il a été quand même développé par un mec de 18 ans, quand même.
Ça c'est vraiment
tout seul pendant qu'il était au lycée. Un polonais développé par un studio allemand et polonais, je crois, qui s'appelle Buckshot Software, et le jeu ça s'appelle Project Warlock. Let's rock and roll. One man and his guns in a world invaded by demons. Warlock with his magic powers. Yeah. And powerful weapons. Groovy. Must take the Earth back. Piece of cake. Après Yon Fury, c'était quand? C'était il y a deux semaines? C'était il y a deux semaines qu'on en a parlé.
Où
on était sur du Duke Nukem 3D modernisé. Ici, nous sommes sur du Doom tout court.
Wolfenstein, hein, on est limite Wolfenstein 3D, on est entre les deux, franchement.
Ou en fait, moi, la vraie référence qui vient tout de suite, c'est Exen.
pour le côté médiéval. Ce jeu, je l'avais complètement zappé. En fait, j'ai vu passer une news de MO5, vous savez, le site MO5, ils font une actu avec des news rétro, etc. Et j'ai vu ces captures de jeu. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je l'avais complètement loupé sur PC. Et du coup, les gens d'Emo5, dans leur news, ont évoqué la sortie console. Et là, banco, je me suis jeté dessus. Et j'aime beaucoup. Alors, comme tu disais, Erwan, après Ion Fury, qui était développé à partir du moteur built de Duke Nukem, qui était vraiment basé sur ce côté chatoyant, flashy du moteur de Duke Nukem. Là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus austère, quelque chose qui se rapproche effectivement
de la techno de Doom ou de Wolfenstein 3D, parce qu'on est sur des décors, sur des niveaux à plat. Il y a pas de niveau supérieur, etc. On est sur quelque chose d'assez à plat. Une ambiance médiévale, hein, à la Hexen, comme tu disais, avec un hub central qui va nous permettre ensuite de choisir les différents épisodes. Donc on est vraiment là dans la logique de Hexen. Et moi, en y jouant, alors moi j'ai trippé sur ce côté. En fait, j'adore le look, Marius. Je sais pas si tu l'as vu tourner, je sais pas si tu l'as essayé, parce que toi qui aimes bien le cel shading, il y a quelque chose de visuellement très particulier sur Project Warlock, en fait, qui reprend un trait assez gras dans ses pixels. C'est du pixel art, hein, on est vraiment sur quelque chose avec des gros pixels, des monstres, vraiment à la Wolfenstein.
Je n'ai pas joué, mais les vidéos que j'ai vues tourner, effectivement, tout de suite, tu penses.
Il y a un trait, il y a un gros surtrait noir, et vraiment, t'es vraiment dans quelque chose comme ça. Comme je disais, donc ambiance Hexen médiévale. Alors moi, en lançant, j'imaginais des barbus qui avaient dû coder ça sur des 486 DX2 en disant bon, on va refaire un jeu dans le jeu. Et comme tu racontais Arwan en intro, moi j'étais surpris. Après quelques heures de jeu, en potassant un petit peu l'histoire du titre, d'apprendre que c'était un mec de 18-19 ans qui l'avait développé.
Il était pas né au moment de la sortie de Doom.
Et c'est dingue, mais complètement. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est son père qui l'a initié à Doom, Hexen.
Faut que je fasse gaffe quand même.
Et je trouve ça, je trouve ça génial. Parce que le jeu, il est maîtrisé, il est ultra référentiel. Quand tu joues, tu te dis, ah bah, ça vient de ça, ça vient de là, ça, je l'ai déjà vu là. Et c'est bien fichu, c'est que vraiment, c'est assez subtil. Moi, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Je crois qu'il y a eu une campagne de crowdfunding qui avait été lancée. Et puis là, bah, un éditeur l'a publié. Et j'étais persuadé que c'était des mecs qui avaient vécu tout ça à l'époque. Et non, c'est un jeune type qui a repris ça. Et bravo, parce que franchement, il arrive vraiment à te repropulser dans cette époque avec un gameplay, je disais, donc la réalisation qui est plutôt austère, hein, c'est quand tu sors de Iron Fury qui est avec des néons colorés dans tous les sens, là t'as quelque chose de plus basique. Visuellement, bah, ça m'a un peu rappelé Ultima Underworld. C'est vraiment les bases. Je parle de visuellement, hein, des textures, de la façon comment sont faites les textures assez grossières. Forcément, on parle d'un jeu de 91 avec donc ce côté très âpre, austère, difficile. C'est un jeu, mais tu morphes, mais il te corrige très vite, c'est-à-dire que très vite tu comprends que c'est pire qu'Iron Fury.
J'ai lancé hier soir, mais j'ai morflé.
Il te corrige. Par contre, les niveaux, moi j'ai avancé, j'ai pris sur moi, j'ai avancé, j'ai un peu morflé, mais les niveaux sont super bien fichus. Moi j'aime beaucoup le level design assez labyrinthique avec plein de petits passages secrets droite à gauche, des monstres qui sortent à la Doom, quoi. T'es vraiment dans les références Doom avec un niveau que tu crois avoir vidé et hop, une porte qui s'ouvre avec 10 monstres dedans.
Mais tu comprends très vite ta douleur. Il t'explique ce qui est assez malin de sa part, c'est qu'il t'explique très très vite là où t'es. C'est-à-dire que tu commences le jeu, grosso modo, sur une sorte d'esplanade, t'as une porte, tu rentres, et là, t'as trois monstres qui t'arrivent dessus, tu les butes, et là, t'as un couloir, donc tu dis, t'avances, t'as un trésor au bout, machin, t'as un couloir, et bim, une trappe, qui te fait tomber dans une pièce, au milieu de 6 ou 7 monstres, et donc là, tu te retrouves, what? Et là, tu te mets à canarder dans tous les sens et
t'as un tonneau explosif bien placé, il faut tout de suite le shooter, ça fait exploser.
Moi, je savais pas. Excuse-moi, moi, j'ai tiré dans tous les sens, ils sont tous morts. mais j'avais plus de munitions après, j'étais mal. Mais voilà.
Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu retrouves vraiment ce côté nerveux, impitoyable de l'époque, avec quand même des petits effets de couleur, enfin de lumière, je trouve, qui sont plutôt fins, qui sont bien intégrés à ce côté vintage. Après, quand t'es un peu rétro gamer sur les bords, c'est une orgie, quoi. Le jeu te propose plein de filtres. Alors, t'as des filtres de couleurs Commodore 64, Amstrad CPC. Évidemment, j'ai choisi ça. T'as du PC 16 couleurs. Tu as aussi des filtres écran bombé à tube. Voilà, c'est des petits détails, mais ça te permet vraiment de jouer dans une ambiance rétro plutôt sympa. Et pour moi, il m'a rappelé aussi pas mal Gauntlet. J'avais l'impression de jouer à un Gauntlet, mais en vue troisième personne. Et je trouve qu'il y a ce côté frénétique de l'action. Qui est vraiment impitoyable. Encore une fois, il est très dur, vraiment. Même quand t'es habitué à Doom, t'as ce côté un peu à la Hexen où t'as des armes blanches, tu joues aussi pas mal. T'as des armes à feu, t'as des fusils à pompe qui se débloquent au fil des niveaux, mais l'arme blanche.
J'ai une question. J'ai pas trouvé de quick save.
Il y en a pas. En fait, t'as un système de sauvegarde un peu chelou.
Il y a pas de F4, F5. Ça, c'est relou.
C'est, et ça, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et surtout, la sauvegarde, elle se fait, je crois, tous les deux niveaux. Et quand tu relances ta partie après avoir quitté, tu n'as pas une sauvegarde, je crois, au dernier niveau. Ça te
ça,
ramène.
C'est chaud.
Franchement,
et c'est ça, chaud.
C'est dommage. C'est dommage.
Ça m'a un peu fait lâcher le jeu quand même. Hein, quand j'étais arrivé assez loin et j'avais quand même, je m'étais battu et tout ça. Et à un moment, je suis mort et je recommence au début.
Je t'avoue. C'est un peu relou. Après, je suis d'accord. Ça, c'est pareil. Ça m'a un peu bloqué, mais. Bon, après, je trouve qu'il a bien intégré aussi un petit côté RPG. T'arrives dans un hub, comme on disait, à la Exen, où tu peux aller optimiser tes armes, tu peux optimiser ton personnage. C'est tout bête, mais le jeu, il est assez riche. Je trouve qu'il y a plein de trucs à farfouiller partout. Et vraiment, encore une fois, tu retrouves ces sueurs froides que t'avais dans des bons niveaux de Doom, bien secs, où tu surveilles tout le temps ta barre d'énergie. T'as ton arme, quand t'es avec ton arme blanche, ta hache, t'as aussi une sorte de pesanteur de l'arme, c'est-à-dire que tu dois faire gaffe à comment tu la places, à te mouvoir, vraiment comme dans Exen, en fait, tu devais vraiment faire attention à comment tu te déplaçais et ton coup, tu vas porter ton coup, t'as une petite latence avec ton coup que tu donnes, voilà, puis les armes à feu, évidemment, elles tabassent bien, enfin, très bon feeling des armes, bon level design, un côté rétro intégré, et en même temps, c'est un jeu moderne, j'ai envie de dire, fait par un jeune type qui a intégré tout ça. Voilà, il y a quelques petits défauts, comme tu disais.
Ça s'appelle Project Warlock.
Project Warlock.
Une 15 euros sur PS.
Quinzaine d'euros.
Ouais, quinzaine
non, mais Patrick, qu'est-ce que tu fais?
Et j'ai failli oublier.
Mais oui, ton point FMV.
Alors, c'est pas vraiment de la FMV à proprement parler. C'est une vidéo que j'ai postée sur Twitter, moi, qui m'a fait craquer, qui est géniale. Une vidéo tournée live avec des acteurs qui incarnent les différents méchants qu'on reconnaît tout de suite, hein, dès les premières images. T'as la sorcière rouge, t'as les méchants du jeu qui sont là à dire comment ils galèrent face aux héros qui déboulent dans la vidéo. Regardez là. C'est un peu dommage que ces vidéos full motion n'aient pas été intégrées au jeu, mais je crois que c'est une pub uniquement PlayStation, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Donc bon, voilà, ça a peut-être été fait pour la version PlayStation, mais en tout cas, à voir, elle est marrante, quoi. Et puis, ça donne une idée un petit peu du jeu, ce qu'on voit du gameplay pendant quelques secondes, et ça met dans l'ambiance quand même très, très particulière visuellement du jeu, mais que moi j'aime beaucoup, qui me rappelle plein de bons souvenirs, évidemment.
Project Warlock sur qui débarque donc, qui était là depuis deux ans sur PC et qui débarque tout juste sur console. On va terminer cette émission avec un objet un peu particulier, peut-être tout aussi intéressant dans sa forme que dans son fond. C'est à mi-chemin entre le documentaire et le jeu vidéo. Ça s'appelle Beyond Blue.
Welcome to the Western Pacific. I'm Dr. Mirai Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues.
Hello, I'm Andre.
And I'm Irina.
First time on a live stream. Be gentle with her. Oh, wow. Glad we didn't miss this.
Beautiful.
Beyond Blue, donc, c'est un jeu d'exploration qui a été inspiré par une série documentaire de la BBC qui s'appelle Blue Planet et Blue Planet 2. Et donc, Beyond Blue, on est dans un sous-marin et le but du jeu, c'est d'explorer la mer, ses beautés et tout ce qu'elle recèle. Qu'est-ce que t'en as pensé, Marius ?
Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je l'ai fini.
Est-ce qu'on en pense quelque chose ? Mais oui, on en pense.
Non. Disons que c'est un jeu qui est plus intéressant pour ce qu'il approche, pour son approche du jeu vidéo que franchement réussi. En gros, donc comme tu le disais, on joue une biologiste sous-marine qui est tout de suite lâchée dans un lagon avec bouteilles, palmes et on se retrouve chargé de scanner les petites bestioles. Tout en avec une espèce d'enrobage autour, un prétexte de télé-réalité ou
de stream, on va dire,
ouais. Stream scientifique plutôt, où le jeu, enfin c'est une excuse qui permet au jeu d'intégrer des petites parties documentaires qui viendront séquencer les différents niveaux. Le truc, c'est qu'en 5 minutes, on a découvert l'intégralité des mécaniques du jeu.
Ouais.
En gros, on se déplace, on scanne un poisson et on rejoint une balise qui nous permet d'aller scanner d'autres poissons à d'autres endroits.
Ouais.
Ça ira pas beaucoup plus loin. C'est immensément répétitif et un peu chiant. Et en même temps, il y a un truc, enfin, je trouve ça intéressant de voir un jeu vidéo non violent, non performatif, qui essaye de loucher vers, je sais pas si c'est le documentaire ou le jeu éducatif, parce qu'il il fait vraiment ni l'un ni l'autre, en fait.
Ouais.
Il est un peu light pour nous apprendre des choses vraiment de façon sérieuse sur sur les univers sous-marins. Il est un peu trop léger aussi pour être du documentaire, parce que les petites vignettes, elles ne durent que 2 minutes et précisent à peine, souvent on répète ce qu'on nous a dit dans le jeu.
C'est de la full motion vidéo, d'ailleurs, on peut le dire, c'est une forme
c'est de la, ouais, c'est de la vidéo tout court, hein, vidéo, c'est les petits pastilles documentaires qui sont intégrés, mais voilà, le jeu est très beau, enfin étonnamment beau en tout cas, parce que moi je m'attendais pas à un truc qui bouge aussi bien, le côté semi-monde ouvert, enfin monde ouvert de chaque zone fonctionne bien, parce que il y a un travail de la lumière qui est chouette, il y a un vrai boulot sur les animations des différents poissons, des bancs, des... Mais après voilà, c'est un peu ledge, quoi. Le jeu développe une histoire, on s'attache à une maman cachalot et à son petit cachalot qu'on va suivre, qu'on va perdre, qu'on va retrouver. Est-ce que ça a un intérêt? Ça, c'est
oui, non, mais si. Andrea, le bébé cachalot, Andrea, tu vas pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt quand même.
C'est l'émission de Cousteau moderne, en fait, là. Comment ça s'appelait, l'émission de Cousteau à l'époque?
Ouais, Monde du silence.
Ouais.
Mais bon, voilà, après, il y a forcément une diversité relativement médiocre des environnements. En gros, ça va jouer beaucoup sur la lumière et la profondeur à laquelle on plonge. Il y a des petits passages qui sont assez mignons, où on est vraiment dans les profondeurs et où on découvre des petits enfoncements, des choses comme ça. C'est assez. Mais est-ce que c'est recommandable? Je sais pas, en fait. Je trouve ça intéressant. J'aime bien l'idée qu'on puisse faire un jeu vidéo comme ça, mais il faudrait le faire mieux pour que ça ait vraiment un intérêt, quoi.
Moi, j'ai été étonné. Oui, il faudrait faire mieux, mais j'ai été étonné qu'ils aient fait déjà aussi bien. C'est-à-dire qu'on est quand même à la limite du serious game.
Avec c'est vrai qu'on frôle, hein.
C'est
la limite, c'est ça le problème.
Ouais, mais avec tout ce que ça comporte de naufrage ludique et d'ignominie graphique et tout ce que tu veux dans le serious game, c'est quand même d'une manière générale un petit peu problématique. Là, on a quand même un objet qui est jouable, qui est beau, qui est quand même agréable. Enfin, je veux dire, on manipule le personnage, ça se manipule bien. Ça a pas grand-chose à envier à d'autres jeux, bon, qui étaient pas forcément des grandes références, mais on se souvient de Abzu qui avait lieu sous l'eau, qui était un peu plombé par sa ressemblance avec son inspiration de journée, quoi. Mais voilà, c'est. Je trouve que il est quand même. Il montre une ambition pas dégueu. C'est alors oui, on peut faire mieux, mais c'est quand même pas dégueu. Et j'ai été plutôt moi agréablement surpris que ce demi-serious game, voire jeu pédagogique par endroit, ait une gueule finalement aussi sympathique. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est l'univers narratif. Alors l'univers narratif sous l'eau avec le cachalot et le bébé, j'ai adoré. Enfin, je trouve ça hyper cool.
C'est ce qu'on veut. On apprend des trucs en plus.
Mais oui, et puis c'est ce qu'on veut, c'est ce côté un peu documentaire interactif. Tu vois le bébé. Oh là là, est-ce qu'il peut plonger?
Tu les accroches vraiment dans le jeu. C'est bien fichu, ouais.
Est-ce qu'il peut plonger aussi profond? Voilà, tu te poses des questions et tout. Voilà.
Ses parents restent au-dessus.
Mais oui, non mais c'est ça. Non, c'est tante. C'est ton...
Ah oui, les femelles restent. Oui. Mais on apprend des trucs, c'est intéressant.
Ça, c'est vrai sur le cachalot, mais tu vas scanner masse de poissons, mais qui serviront à rien, quoi.
Ouais.
Vraiment. Non, mais justement, il faudrait pas que ce soit alimenté maintenant régulièrement de nouvelles missions, de nouveaux contenus comme ça sur différentes espèces animales. Enfin, ça serait chouette.
Mais et après, il y a juste une sorte de demi-vernis narratif supplémentaire avec les personnages. Et là, je décroche. Okay.
c'est un peu en toc.
Ah là, c'est gênant.
Les passages en sous-marin qui sont d'une gênance absolue.
On voit
vraiment les limitations techniques où le personnage
ne peut pas bouger,
où il n'y a strictement rien à faire. Ouais. Que d'appuyer sur deux boutons pour regarder les
Et on peut rien faire en fait avec les objets, tout ça, c'est pas.
Non, tu peux attraper un objet, le regarder, le retourner, le reposer.
Et ça, c'est sympa.
Et puis, tu peux regarder les poissons que t'as scannés et quand tu les as scannés plusieurs fois, tu peux changer les animations de leurs mouvements et compagnie.
Non, et puis il y a les discussions avec la frangine qui s'occupe de la grand-mère dont t'as absolument rien à faire, qui doit être une mamie super sympa, hein, j'en sais rien, mais et franchement,
c'est pas personnel. Moi, le problème, c'est que je sortais de Maniteur, je suis encore sur Maniteur, donc j'y jouais, et du coup, c'est vrai que j'ai fait un peu le grand saut, c'est vrai que le tempo est différent, il m'a fallu un petit moment de décompression. Après, moi, je trouve que, moi, il excite bien ma fibre, vous savez, collectionniste, aller scanner tous les animaux, tout ça, mais j'ai ce truc-là, comme dans tous les open world où je vais tout scanner, machin. Et je trouve que ça marche bien pour ça, il t'amène vraiment, avec ses différentes missions, à aller tout scanner, tout ce qui bouge.
Ah ouais, mais tout à fait, il propose que ça, hein, c'est scan.
Et après, c'est sûr qu'il faut pas. Non, il faudrait qu'ils alimentent, effectivement, il faudrait alimenter que d'autres contenus, avec d'autres choses, d'autres. Mais je sais pas si c'est au programme.
Mais c'est. Bon,
je râle, mais j'ai été au bout, sans me faire payer, tu vois, j'ai fait les 2 heures sans problème. C'est pas désagréable.
Mais c'est surtout que t'as... alors là c'est sur l'océan, il y a évidemment la fibre écolo qui ressort, il y a pas mal de questionnements comme ça sur la biodiversité, sur et en même temps moi ce que d'une part parce que c'est plutôt pas mal réalisé, que c'est assez agréable de choper comme ça une sorte de documentaire interactif, j'ai nagé au milieu des baleines ou des dauphins et tout ça, c'est je trouve ça hyper cool, hyper reposant et tout. Et en même temps tu te dis est-ce que parce que les catégories de grands documentaires à gros budget comme ça, t'as pas 12 milliards de thématiques. Je veux dire, t'as la mer, t'as les félins et t'as les dinosaures. Hein. Donc, je veux dire, je résume, hein, mais c'est un peu
toi,
ça.
Toi, t'as pas Disney Plus.
Hein?
Toi, t'as pas Disney Plus.
Parce ouais. Il y a les singes, d'accord. Il y a les antilopes, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te dis. Pourquoi pas? Il peut y avoir un vrai potentiel de vrais jeux cool là-dessus avec des belles animations, des beaux univers. Après, ce serait un peu plus compliqué à modéliser, mais des vrais jeux avec un peu d'ambition, comme on a Beyond Blue. Il en faudrait plus, comme tu le dis, Marius. Mais je me dis, ce serait cool des vrais documentaires interactifs hyper trippants comme ça. Ce serait vraiment vraiment sympa en fait.
Moi, c'est ça que je retiens du jeu, c'est que ça serait cool que.
Ouais.
En fait. T'as envie qu'il fasse plus.
Ouais.
Qu'il soit plus informatif, plus.
Après, tu te rapproches aussi des modes qui ont été implémentés par Ubisoft, notamment sur les Assassin's Creed, les modes exploration. Ouais. Tu vois, t'as des concepts comme ça hybrides, je pense, qui peuvent être développés, en tout cas, qui sont.
Mais enlevez-moi ce scénario débile avec les personnages. Ça, il faut pas. C'est...
Non, c'est surtout l'histoire de la sœur qui est horrible. Après, les deux autres personnages et
oui, c'est vrai, c'est plus scientifique.
Tu vois un moment qui ne change absolument rien, mais t'as des petits trucs. Ça fait émerger des petites critiques contre les industries, contre les machins qui sont plutôt marrants. Enfin, ils sont bienvenus en tout cas.
Ça s'appelle Beyond Blue, c'est 20€ en tout cas sur PC. Je crois que c'est sur autre support. Hein. Il y a d'autres supports.
Je crois sur console, il me semble. Ouais, je l'ai fait sur PC, mais.
Tu l'as fait sur quoi
Moi, je crois que c'était une exclu Epic, mais peut-être que je me trompe.
Effectivement. Non, plateforme PS4, Xbox One, Switch. Alors après, est-ce que c'est prévu? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a les prévus. C'est prévu pour console. Je ne sais pas si c'est déjà disponible. C'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo pour cette avant-dernière émission de la 13e saison de Silence on Joue. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, vous aimeriez bien y échapper, mais vous n'allez pas y échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Marius?
Moi, j'ai dévoré un bouquin qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Métal Hurlant, la machine à rêver, qui est un petit pavé de 300-400 pages. Assez bizarre parce que c'est composé uniquement d'interviews mis bout à bout, mais pas une interview longue, mais des petits bouts d'interviews séquencé par selon les différentes époques de métal, mais une fois passé ce truc un peu cette rythmique un peu étrange, il y a plein d'infos chouettes et puis c'est passionnant quoi, la construction de métal, de tout l'écosystème qu'il y avait autour, de Futuropolis, de cette espèce de d'ébullition de la bande dessinée et du rock et de la mauvaise foi, et il y a des moments hilarants, de mauvaise foi, de violence journalistique, qui sont des agressions, quoi. Mais et puis tu vois des gens qui sont devenus des notables de la BD extrêmement respectables, parler de leur jeunesse ou se voir renvoyer à leur jeunesse. Il y a un échange entre Tardy et Manœuvre. Manœuvre fait une critique dégueulasse d'un bouquin de Tardy, et Tardy répond, mais à un niveau d'insulte et de violence qui est
méchant
de conneries. Et c'est marrant, quand tu imagines Tardy, tu vois le monsieur de la Grande Guerre, hyper grave, hyper important, et là tu vois juste un mec qui est heurté par un petit con, et son ami prend un plutôt...
Sur relativisme.
Voilà, un bouquin assez chouette chez De Noël, je crois, qui est sorti il y a quelques années.
D'accord.
Qui est un bon truc sur l'époque.
Ouais, mais c'était bien. Moi, je me souviens quand je récupérais les Métal Hurlants au puce de Saint-Ouen. J'en avais plein, mais j'en avais jamais deux qui se suivaient. C'était un peu frustrant. J'avais le numéro 12 et le numéro 15 et le numéro. Non, mais c'est. Enfin, bref. Une grande époque. Patrick.
Moi, pas grand chose. Hein. Je suis pas encore retourné au cinéma. Non. Bah, écoutez, on est entre nous. Pour tout vous dire, ça fait deux jours que je me repasse en boucle la bande-annonce de Deadly Premonition 2. La trailer qui est tombée il y a deux jours. Et j'en peux plus d'attendre, quoi. Il sort le 10 juillet. Et je trouve, alors c'est un tout petit éditeur qui est derrière. C'est pas une grosse boîte. Et je trouve qu'il gère très très bien la com sur le jeu. On a des petites choses sur les réseaux sociaux, des petites images, des petites séquences animées. Et là, on a un trailer que je trouve génial, qui commence comme une publicité pour la ville où va se dérouler l'enquête, hein, Le Carré en Louisiane. Ça commence comme une bande-annonce de vacances. Vous allez voir, il y a des activités et tout. Et peu à peu, on commence à avoir des images perturbantes qui arrivent, des images de meurtre, évidemment, parce qu'on va retrouver cette affaire de meurtre sur place. Et je la trouve géniale, cette bande-annonce. En tout cas, ce qui est terrible, c'est que ce jeu, donc, il arrive le 10 juillet, très attendu. Et ce qui est toujours marrant, c'est que là, donc, on a un trailer de quelques secondes, quelques minutes qui vient de tomber. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur le jeu. Et moi, ce que j'adore, c'est voir un petit peu ce qui se dit chez les YouTubers. Mmh. Il y a toute une communauté autour de ce jeu, tellement culte aujourd'hui, où les gens, voilà, imaginent qu'est-ce que veut dire ce plan séquence. Le héros, à un moment, sa main est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à tel endroit? Et il y a vraiment des chaînes YouTube avec des choses très documentées, très bien fichu, avec des interviews.
Oh mon Dieu.
J'ai plus le nom en tête, comme ça, il y a une youtubeuse qui a interviewé le doubleur du jeu originel, et l'interview, elle dure 1h30, elle est géniale. Je l'ai cité d'ailleurs dans un de mes papiers pour Gamekult sur le premier jeu, et je trouve que c'est génial. Et j'ai envie de dire que la communauté qui est autour du jeu, elle reflète l'intérêt de ce titre. Autant dire que les attentes sont très très importantes sur la suite, et qu'il faut pas qu'ils nous déçoivent, Swery, sur ce Deadly Premonition 2. Et évidemment, je vous en parlerai dès la rentrée, puisqu'il sort le 10 juillet. Je compte les jours, les heures, et ça sera, voilà, on fera un débrief complet à la rentrée. Mais en tout cas, regardez le trailer, il donne vraiment envie. Sincèrement,
est-ce qu'à partir du trailer, tu peux te dire s'il faut avoir fait le premier pour amener quelque chose ou pas?
Moi, j'ai envie de dire que tu profiteras mieux. Parce que le scénario est vraiment imbriqué, en fait, premier. Enfin, là, les événements du 2 se passent avant et après le premier. Et il y a des choses claires. Je pense qu'il y a un reminder au début du jeu, hein, qui va rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Il faut surtout pas spoiler. C'est un jeu où, voilà, il y a pas mal de choses à découvrir en le traversant. Moi, j'invite évidemment à faire le premier dans la mesure du possible, parce que je pense que vraiment le deuxième est vraiment a priori bâti autour des événements du premier. Donc, je pense que tu peux faire sans, mais si tu veux l'expérience totale, à mon avis, c'est mieux de faire le premier.
C'est construit avant et après, c'est difficile de.
C'est ça. Donc, je pense que tu peux faire sans, mais bon, puis le premier est tellement, tellement culte comme jeu, tellement culte.
Moi, j'ai recommencé à lire, donc j'en avais parlé d'un, il y a, je crois, deux ou trois semaines, des comics américains. En fait, je crois que j'ai passé trop d'années sans lire du gros super-héros qui tâche. Et donc là, j'ai découvert une série lancée en 2018 chez Marvel, c'est The Immortal Hulk. Ouais, je lis de Hulk. Il faut savoir quand même que Hulk, c'est quand même un des rares personnages vraiment intéressants de l'écurie Marvel. Il est tellement, c'est un peu, d'une part, c'est un peu l'équivalent de Superman, hein, parce que c'est l'invincible. Il y a rien qui peut machin. Et surtout, il lui a. Pardon.
En moins noble quand même.
En moins noble, mais non, mais en
force
plus.
Absolue,
oui, bien sûr.
On peut pas arrêter. il y a toujours ces deux personnalités.
Enfin, ah bah, et c'est là toujours. Où c'est là où c'est drôle dans The Immortal Hulk. Donc en fait, il y avait eu déjà des grands events Marvel qui étaient Planète Hulk notamment.
Il est exilé, c'est ça.
Et
non,
il est exilé par Doctor Strange, Xavier, etc. Et puis après, il y a le truc où il revient, où il est pas content. Comment ça s'appelle bref, où il pète tout, il pète la gueule à tout le monde. Et donc bon là moi j'avais pas suivi ça pendant des années hein, donc et donc je tombe sur The Immortal Hulk et là c'est très drôle parce que c'est cette capacité qu'ont certains de Marvel. Alors je connais pas les auteurs, le scénariste c'est Al Ewing et au dessin c'est Joe Bennett et en fait le truc c'est que c'est un peu on fait un peu un bilan sur Hulk. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé dans tous ces univers, dans tous ces personnages. Alors il y a eu Grey Hulk, donc le Hulk gris. Il y a eu Red Hulk, il y a eu Baby Hulk, il y a eu il y a eu des Hulk partout. Il y a eu des Bruce Banner. Il est mort au moins 14 fois. Et
la,
donc
la
en fait,
série télé, la série télé.
C'est plutôt ce qui se passe dans l'univers Marvel. Sûr, et là, on essaye de tout rendre cohérent. Et c'est assez drôle en fait. Et en fait, ça part de ce postulat donc qui est dans le titre, hein, c'est The Immortal Hulk. C'est Hulk est immortel. Et on va vous expliquer pourquoi, comment, pourquoi. Et en fait, ça arrive. C'est totalement le bordel parce qu'en fait, tu te retrouves avec un Bruce Banner d'un côté et avec des personnalités multiples de Hulk de l'autre. Qui discutent entre eux avec Hulk étant devenu plus intelligent que Bruce Banner. Enfin bon, bref.
Oh non.
Et franchement.
C'est bien parce que souvent les mises en cohérence comme ça d'univers chez Marvel ou DC, c'est un peu Kougloff. Hein.
Mais là c'est plutôt drôle parce qu'en fait ils arrivent à garder un peu le ce qui fait un peu la substantifique moelle de Hulk, c'est-à-dire qu'il marave les Avengers au petit déjeuner par exemple. Ça c'est quand même un vrai plaisir, tu vois. Enfin, foutre des grosses tatanes à Iron Man. Enfin, c'est quand même la base.
Sinon, moi c'est comme tu disais, c'est comme Superman. Hein. Moi je le trouve fascinant dans ce côté absolu.
Et
c'est un personnage monstrueux quoi.
Et franchement, le truc se lit plutôt bien sans avoir trop d'antériorité. C'est que moi j'ai découvert à cette occasion le personnage de Grey Hulk par exemple que je ne connaissais pas. Et y a pas besoin d'avoir de tout connaître du lore de Hulk pour se rendre compte de son foisonnement. Et du coup c'est plutôt sympa. Et puis avec des caméos et des personnages comme Doc Samson ou comme ça du Hulkverse qui sont là. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Ça tient bien et j'ai pas encore fini parce que ça, je crois que c'est une série qui continue en ce moment. Donc je suis vraiment au deuxième ou troisième TPB et voilà. Et c'est plutôt très sympa. The Immortal Hulk. Voilà, pour ceux qui voudraient essayer. Voilà, c'est fini pour cette semaine. C'est presque fini pour cette saison. On se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière de la saison 13 sur Libération.fr et sur les internets. Ciao!
Bye bye.
Salut.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.